Dans Matthieu, au chapitre 24, Jésus parle. Nous allons continuer ce que nous avons vu dimanche dernier. Dimanche dernier, je n'ai pas pu tout vous dire, parce que ce sujet est très profond, très sérieux. Lorsque Jésus parle de son retour, vous avez vu qu'à 7 reprises, dans 7 situations différentes, il parle qu'il y aura beaucoup de chrétiens, pas de païens, les païens c'est inévitable, beaucoup de chrétiens qui pleureront et qui grinceront des dents parce qu'ils ne sont pas prêts. Alors on va voir un des 7 contextes où Jésus enseigne sur cette affaire. C'est sérieux, c'est trop sérieux, croyez-moi. Le mariage, c'est sérieux, mais à la limite, le mariage, je viens de dire que le mariage, c'était très sérieux. Mais à la limite, le mariage, si vous échouez dans un mariage, c'est pas pour ça que vous allez aller en enfer. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'enfer, c'est autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? C'est à partir de là qu'il faut bien écouter. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? C'est une question de Jésus. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Quelle parole! Une fois de plus, Jésus qui parle de son avènement et qui indique qu'il y aura une catégorie de personnes qui ne seront pas prêtes pour la simple et unique raison qu'ils auront été des hypocrites. Vous avez vu le verset 35, il leur donnera sa part avec les hypocrites. Michael nous disait tout à l'heure qu'il y a ceux qui se lavent spirituellement et qui entretiennent leur communion avec Dieu. Il y a vraiment cette part qui est une image de la communion avec Dieu, mais il y a des gens, leur part, ça sera les pleurs et les grincements dedans. Nous ne nous rendons pas compte combien cela va être très, très, très grave une fois que l'Église sera enlevée. Vous avez vu ce qui se passe. Écoutez, c'est hier matin, je crois que j'ai pris 5 minutes pour regarder les informations. Il y avait un reportage sur cette marche qui a été faite dans une ville par rapport à ce Français qui a été assassiné en Algérie. Et il y avait un gars, je ne sais pas s'il était chrétien, il a dit, écoutez, ce qu'on est en train de vivre, ce sont les prémices de choses graves qui viennent sur la terre. Je ne sais pas le gars s'il était un croyant ou quoi, j'en sais rien. Mais c'est exactement ça. C'est pas la colère de Dieu. Ce sont les prémices de la colère. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Mais la colère de Dieu va venir. Quand la colère de Dieu va venir, ça va déclencher une série de catastrophes terribles que vous pouvez découvrir dans le livre de l'Apocalypse à partir du chapitre 6. C'est quelque chose qui est bien expliqué. Les hommes s'égorgeront les uns les autres à partir du moment où l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit sera ôté de la terre et les hommes vont connaître la colère de Dieu. Il y a un frère qui était ici, membre dans l'Église il y a quelque temps, qui est parti et qui m'a envoyé un mail il y a quelques jours me disant, voilà monsieur Gault, le thème de la prédication de dimanche à l'Église. Jésus est de bonne humeur. Alors écoutez-moi bien. Je vais vous dire, Jésus n'est pas de bonne humeur. Personne ne peut savoir les sentiments du Seigneur, premièrement. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu est en colère. Vous pouvez dire, quelqu'un peut dire, que si quelqu'un ne connaît pas l'évangile, il peut dire, mais il s'avance beaucoup. Écoutez-moi bien, je vous le dis, Dieu est en colère. Vous avez lu l'Épître aux Romains ? Vous avez vu comment les lettres aux églises commencent, parce que le Nouveau Testament commence par l'Épître aux Romains. Si on enlève les évangiles et le livre des actes, on peut dire que les lettres aux églises, je parle des lettres aux églises, commencent par l'Épître aux Romains. Et l'Épître aux Romains commence par, il y a 9 fois où la colère de Dieu revient dans les Romains. Mais la colère de Dieu commence, ce livre commence pour exprimer la colère de Dieu. Bien sûr qu'il y a la grâce, et on va terminer avec la grâce. Vous savez le cantique qu'on a chanté ? Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais en fin de compte, c'était ça. Ou trouver une retraite par rapport à la colère de Dieu. Et à la fin, mais prenez le pain que Dieu a vous donné. Mais mes frères et sœurs, il faut que nous soyons tous conscients que Dieu est en colère. Certains regards me montrent que vous ne croyez pas trop. Écoutez, vous allez le croire là. Romains chapitre 2, regardez bien. C'est sérieux cette affaire, c'est extrêmement sérieux. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, que sur son trône, bien sûr que Dieu est plein de miséricorde et plein d'amour pour ses enfants, mais pour le monde, la colère est en train de venir parce que les hommes ont fait des choix qui déclenchent la colère de Dieu, qui amène la colère de Dieu. Vous avez lu l'Ancien Testament et vous avez vu comment certains comportements ont déclenché la colère de Dieu. Eh bien, ce que le monde est en train de vivre, vous vous rendez compte que dans le monde, surtout en Europe, 19 pays, en quelques mois, ont voté l'adoption du mariage homosexuel. 19 pays. Hier, je regardais comme ça, parce que c'est facile avec Internet, presque tous sont des pays qui se disent croyants, chrétiens. Presque tous. Ça fait pitié quand je vois l'Espagne, qui est un pays qui se dit catholique à 70%, et ce n'est pas pour critiquer un Espagnol, ne prenez pas ombrage là-dessus, en France on n'est pas mieux. Mais quand vous voyez, regardez les statistiques, mais des pays chrétiens, enfin qui se disent chrétiens, ils ne sont pas chrétiens du tout les gens, il y a 1%, 2% de chrétiens, pas plus, il ne faut pas rêver. S'il y avait 60% de chrétiens, ou comme au Brésil, qui sont 80% de chrétiens, toutes dénominations confondues, et qui sont en train de préparer le vote pour les homosexuels, croyez-moi que s'il y avait 80% de chrétiens nés de nouveau au Brésil, cette loi ne passerait pas. Et ces choses-là attirent la colère de Dieu. D'autant plus que dans nos pays, on est en train de calculer, parce qu'il faut que la religion montre qu'elle est dans le vent, on est en train de calculer et de travailler pour que ces mariages qui sont célébrés dans les mairies soient également célébrés dans les églises. Et là, je peux vous dire qu'on va serrer un boulon de plus à la colère de Dieu, parce que Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point on déshonore le mariage. D'ailleurs, tout ça, c'est fait pour déshonorer Dieu, pour déshonorer la parole de Dieu, pour se moquer de Dieu. Alors moi, quand on me dit que Jésus, il est sur son trône, il est de bonne humeur, moi, laissez-moi vous dire que ce n'est pas possible. Regardez dans Romains au chapitre 1er, il faut lire les textes sur la colère, même si ce n'est pas pour nous. Parce que la colère de Dieu, ce n'est pas pour les chrétiens. Vous pouvez dire Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire Alléluia ? La colère de Dieu, ce n'est pas pour les véritables chrétiens. La colère de Dieu, Romains chapitre 1er, verset 18, elle se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, notre corps qui devait être sanctifié. Vous connaissez la fin de l'Épître aux Romains, offrez vos corps. Et ce texte commence en expliquant que le corps, lorsqu'il n'y a pas de sainteté, eh bien il est méprisé, il est voué à la saleté. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est les lesbiennes, il faut le dire, parce qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre. Et que de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Alors le salaire, ils l'ont. Et on va l'avoir, le salaire. Vous savez, toutes ces maladies vénériennes, etc. Parce que bon, on est là, etc. Mais le sida, vous pouvez... Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas le temps de tout expliquer. Mais mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, le salaire, on commence à l'avoir le salaire, de leur égarement. Alors vous lirez la suite, mais regardez au verset 4 du chapitre 2. « Mais méprises-tu les richesses de sa bonté ?» Il parle à des chrétiens. Parce que Rome, là ça a été écrit, je ne sais pas en quelle année, ça a été écrit en 56. Et vous savez qu'en 70, ils ont connu la persécution par Néron, comme ce n'est pas possible. Et je crois que Dieu a envoyé cette lettre aux chrétiens de Rome pour les préparer à la persécution qu'ils allaient vivre en 70, donc vous voyez 14 ans avant, pour les aider à être fort. De la même manière que nous nous rassemblons sous le regard de Dieu pour le célébrer, pour l'adorer, mais également pour être fortifiés. Parce que si nous ne sommes pas fortifiés, je peux vous dire que beaucoup de chrétiens vont, hélas, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, beaucoup de chrétiens, pour prendre l'adverbe du Seigneur, beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts parce qu'ils auront accepté toutes ces choses, c'est pas grave, Dieu est plein d'amour. L'hypocrisie, ça amène un reniement des choses spirituelles, on passe les choses, on s'imagine que Dieu passe l'éponge sur tout. Écoutez, je vous le dis parce que c'est une affaire sérieuse. La colère, les prémices de la colère sont enclenchées. Ça vous étonne peut-être, mais je pense que non. Il y a quelqu'un qui est étonné? Levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait étonné par le fait que sur son trône, Dieu est en colère contre ce monde impie qui ne veut pas de lui, qui ne se soucie pas de lui. Et vous savez, alors ce que je vais dire, mettez-le entre parenthèses. C'est pas ce que je vous dis, je sais que ce que je vous dis jusqu'à présent, c'est inspiré, c'est vraiment la parole. Mais imaginez les musulmans. Imaginez, je ne parle pas des terroristes, je parle des musulmans qui voient ce que les pays soi-disant chrétiens sont en train de faire. Réfléchissez. Je ne vous demande pas de vous mettre dans la peau d'un musulman, mais pendant un instant, imaginons un peu ce que ces gens convaincus peuvent penser quand ils voient que nous, pays soi-disant chrétiens, nous sommes en train de voter des choses d'une immoralité totale, et quand on lit la parole, ou alors vous, si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous ne lisez pas la parole. La parole de Dieu, elle est claire. La colère du ciel se révèle. Mais le problème, c'est pas tellement que la colère du ciel se révèle, parce que moi, tout ce que j'ai chanté, je le pense, que Dieu est juste. Vous le pensez que Dieu est juste? Et que tout est juste, et qui sait ce qu'il fait, vous croyez que Dieu, il perd les pédales, et qu'il sait pas ce qu'il fait? Moi, je vous dis que Dieu contrôle tout sur la terre. Il contrôle tout. Et la colère, c'est pas lui qui l'a voulu. Il savait que les hommes ne se soucieraient pas, comme dit le verset 28 du chapitre 1er, ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Il y a des gens, ils sont à l'église, mais pourquoi vous êtes à l'église? Pourquoi vous êtes à l'église ce matin? Pourquoi vous êtes ici? Pourquoi je suis ici? Moi le premier. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi nous sommes venus dans la maison du Seigneur? Est-ce que nous sommes venus parce qu'en venant à l'église, je dois être chrétien? Il y a un rétrograde qui est venu me voir jeudi. Je vous donne cet exemple. Un monsieur qui va venir cet après-midi, il est en ruine. Et je lui ai dit, écoutez, Dieu a pitié de toutes nos ruines. Il me dit, c'est écrit ça? J'ai dit, oui, c'est écrit dans Isaïe. Vous pouvez me le faire lire? On l'a lu. Ah, ça me fait du bien. J'ai dit, Dieu a pitié de vous. Donc il me dit, si j'ai bien compris, il faut que je vienne à l'église, il faut que je lise la Bible, il faut que je prie. J'ai dit, non. Je me regardais comme ça. Non. Il ne faut pas lire la Bible, il ne faut pas prier, et il ne faut pas venir à l'église. Vous l'avez fait et vous avez chuté. Il vous faut obéir au Seigneur. Parce qu'on peut faire toutes ces choses sans obéir. Combien de gens sont parmi nous et n'obéissent pas à Dieu? Combien de gens sont parmi nous et sont restés dans leur péché? Et tout ça, c'est du mépris. Regardez la question du Seigneur. C'est des questions. C'est des questions, comme je l'ai dit, quand Dieu pose une question, la moindre des politesses, c'est que nous y répondions. Regardez la question du verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté? De sa patience, de sa longanimité. La longanimité, c'est la souffrance. C'est une souffrance, c'est la patience dans la souffrance. C'est ce que Jésus a vécu au calvaire. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Tiens donc, la bonté de Dieu, quelqu'un me dit, la bonté de Dieu. Mais Dieu est bon, il passe sur tout le Seigneur. Tout se finira bien. Moi, je l'ai entendu ça. De toute façon, avec Dieu, tout se finira bien. Et moi, je ne vois pas comme ça dans la Bible. Je ne vois pas tout à fait ça dans la Bible. La bonté de Dieu, ça ne nous pousse pas à la négligence. La bonté de Dieu, si vous connaissez la bonté de Dieu, ça nous pousse à la repentance. Si vous ne la connaissez pas, la bonté de Dieu, peut-être vous connaissez la négligence, alors là, oui, ça va vous pousser à l'indifférence. La bonté de Dieu, ça nous pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et ton cœur impénitent, un cœur qui refuse de changer, c'est des mots, prenez le dictionnaire quand vous lisez. Ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Je vous répète que les lettres aux églises commencent avec ça. Qui rendra à chacun selon ses œuvres, il réserve la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire, l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui par esprit de dispute sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Je vous plains si vous êtes rebelles. Si vous êtes tout le temps en train de dire « Oui, mais si Dieu existait, vous vous rendez compte de ce qui s'est passé cette semaine à Tizi Ouzou, ou c'est ça, oui, enfin, en Algérie, vous vous rendez compte de ce qui se passe là-bas, si Dieu existait. » Écoutez-moi bien, si vous êtes rebelle, vous allez vous endurcir. Vous ne comprenez peut-être pas tout. Eh bien, à genoux, dites « Seigneur, je ne comprends pas. » Mais ça ne fait rien, je te fais confiance. Vous croyez que Dieu, ce n'est pas ce qu'il fait? Vous croyez que Dieu est indifférent à ce qui se passe en Irak, au nord de l'Irak? Vous croyez que Dieu est indifférent à ce qui se passe en Somalie? Vous croyez que Dieu est indifférent à nos frères et sœurs qui sont esquintés, tués en Syrie? Vous croyez que Dieu est insensible à ces choses? Mais nous devons bien comprendre une chose, quand vous lisez l'introduction de la première lettre, moi je suis étonné. Vous voyez, je crois à l'amour de Dieu et j'espère que vous allez tous ce matin vous saisir de son amour et de sa consolation et de sa grâce et de sa paix, parce qu'il y a des choses, oui, qui me prouvent à moi que Dieu est en colère. Oui, je le dis, mes frères et sœurs, parce qu'il faut que vous l'entendiez. Il faut que vous sachiez que sur son trône, Dieu est en colère. Ce n'est pas la même colère que nous. Nous, on a une colère injuste, une colère sentimentale, une colère partiale. Vous comprenez ? Nous, on n'a pas une colère normale. Mais la colère de Dieu, elle est juste. Parce que les hommes sont en train de blasphémer, les hommes sont en train de se moquer du mariage, les hommes sont en train de tourner en dérision toutes les choses spirituelles. Toutes les choses spirituelles. Et si nous ne veillons pas et si nous ne disons pas les choses, beaucoup de chrétiens dans nos églises ne seront pas prêts. C'est lundi soir, je n'avais rien à faire. Et je me suis dit, tiens, tu vas, c'est quand même Internet, il y a de bons trucs, moi j'ai l'impression que c'est chrétien Internet. Alors je tape un truc sur l'onction. Un prédicateur qui est connu dans le monde allemand. Je me suis dit, tiens, tu vas taper une prédication de cet homme. Et j'étais malheureux, vraiment. Parce que je vous assure, c'est subtil. Écoutez bien, je vous dis ça pour vous aider. Je ne vous dis pas ça pour mépriser ou me moquer de quelqu'un, c'est très grave. C'était toute une prédication sur l'onction. Alors ça partait d'un verset, Sophie, vous allez le mettre, hein. Ça partait d'un verset, c'était le verset 16 du chapitre 14. Écoutez bien, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Ça partait de Jean, chapitre 14, verset 16. Alors le verset était affiché. Je fais pareil. Vous ne voulez pas le mettre, Sophie? Non, mais dites-le, Sophie. Jean 14, verset 16. Et toute l'exhortation, enfin, je n'ai pas été jusqu'à la fin, mais enfin, tout ce que j'ai, les trois cas, toute l'exhortation, écoutez bien mes frères et sœurs, parce que moi ce que je veux en tant que pasteur, c'est vous aider à ne pas vous faire piéger par les ruses du diable. Toute la prédication était là-dessus. Bon, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, etc. Toute la prédication, voilà, le consolateur, vous êtes obligés de l'avoir, tous vous devez l'avoir, vous ne pouvez que tous être remplis du Saint-Esprit, de toute façon c'est Jésus qui le fait, c'est lui qui prie, c'est lui qui donne, donc vous ne pouvez qu'être remplis du Saint-Esprit, une fois pour toutes, vous êtes remplis du Saint-Esprit, alors tout le monde applaudissait, tout le monde se levait, etc. etc. Et il parlait de David, en plus il y avait des choses pas bibliques, mais, bon, mais ça, là, jusque-là, comme il disait, David a reçu l'onction, une fois pour toutes, il a été loin toute sa vie. Est-ce que c'est vrai? Voyez, et tout, alléluia, tout le monde. Moi, ça, je ne supporte pas, ça me fait mal au cœur, parce que dedans, il y avait des pasteurs. Et Jésus, David a été oint trois fois, premièrement. Trois fois. Et je peux vous dire qu'il en a eu besoin, de cette onction renouvelée. Est-ce que nous, on n'a pas besoin d'être renouvelés dans l'onction? Soyons. Mais c'était subtil. Mais en plus, ce n'est pas biblique, ça. Parce que regardez le verset qui suit. Et il a oublié, regardez, c'est écrit comme ça en vérité. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père. Alors vous allez me dire, mais M. Gou, il n'y a pas de différence. Alors écoutez-moi bien, si vous ne comprenez pas la différence, vous allez voir M. Ollier, il va vous expliquer. Les petites conjonctions de coordination, elles sont reliées à un état d'obéissance. Si vous m'aimez, vous gardez mes commandements, et moi, le Seigneur, je vous baptiserai du Saint-Esprit. Surtout que la suite, si on la lit, si on lit la suite, vous voyez, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alors écoutez-moi, si vous vivez dans le monde, ne vous attendez pas à ce baptême du Saint-Esprit. Et j'étais affligé. Alors je vous le dis parce que bon, c'est important que quand vous écoutiez un pasteur, vous regardiez le contexte, que vous regardiez ce qui suit, que vous ne preniez pas un verset n'importe comment, c'est-à-dire bêtement, et que vous disiez, voilà, le Seigneur il va me baptiser du Saint-Esprit, c'est lui qui fait tout, il baptise, il le veut, il prie. Mes frères et sœurs, c'est beaucoup plus sérieux que ça. Le Seigneur Jésus, vous avez vu comment il parle. Moi, cette semaine, j'ai lu les textes où Jésus parle aux pasteurs du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Je le lis parce que je suis pasteur et je sais très bien que j'ai intérêt à veiller sur ce que je vous dis et que je ne dois pas partager mes pensées, même si je vous ai dit dans ma pensée ce que je pouvais croire que musulmans pouvaient comprendre de notre religion. De la religion officielle. Mais mes frères et sœurs, c'est à bon escient que Jésus parle de ses pleurs et de ses grincements. Beaucoup, moi ça me fait mal au cœur quand je sais que dans une église, beaucoup de chrétiens ne seront pas prêts parce qu'ils auront joué l'hypocrisie. C'est vrai que nous, on a tout fait, nous, pour essayer de garder les gens de telle sorte qu'ils continuent, comme je l'ai dit, mais c'est la vérité, à donner leur dîme, et on a mélangé l'évangile avec le péché, et tout ça s'appelait au diable, mais on ne s'en sortira pas. Et je peux vous dire que quand les églises vont voter le mariage homosexuel dans les lieux de culte, laissez-moi vous dire que ça va vraiment déclencher encore plus la colère de Dieu. On va applaudir partout, dans les temples, dans les églises, c'est merveilleux. L'église, ben qu'est-ce qu'ils ont fait des progrès, vous vous rendez compte? Mais l'église, elle est à la page. L'église, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus formidables? Ah, c'est sûr, ça c'est sûr. Qu'alors là, il y en a qui vont apprécier. Mes frères et sœurs, Dieu est en colère. Et l'hypocrisie, ça n'arrange rien. Et il y a des chrétiens hypocrites. Et quand Dieu dit au pasteur, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous êtes des hypocrites. Malheur à vous, pasteur hypocrite, parce que vous parcourez la terre pour faire un prosélyte. Vous savez, un prosélyte, un nouveau chrétien. Vous parcourez la terre pour en faire un prosélyte, un nouveau chrétien. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la GN, comme vous. Les pasteurs, ils devaient être... J'aurais aimé avoir des photos de l'époque pour voir la tête des pasteurs. Mais est-ce que c'est de la méchanceté ou est-ce que c'était de l'amour? Est-ce que cette sévérité de Dieu, ce n'était pas de l'amour? Mais regardez avec moi dans Ézéchiel 34. Mes frères et sœurs, vous savez, nous vivons des temps difficiles. Et si je vous dis que le Seigneur est en colère, ce sont des choses qu'il faut prendre au sérieux. Ne vous imaginez pas que Dieu va passer l'éponge. La justice de Dieu demande un jugement. C'est incontournable. Alors, c'est tout le côté négatif, entre guillemets, quoi. Est-ce que pour un chrétien, il y a un côté négatif, un côté positif? Mais non, ce que je dis, ça ne tient pas debout. Il n'y a pas de côté négatif, il y a la parole de Dieu, point. Alors, dans Ézéchiel 34, le Seigneur parle au pasteur. Vous avez remarqué que ce texte s'adresse à ceux qui ont la charge de donner de la nourriture. Vous avez remarqué? Ceux qui ont une charge. Donc c'est vraiment adressé aux pasteurs, aux moniteurs de l'école du dimanche, aux anciens, aux évêques, à tous ceux qui prêchent, à tous ceux qui apportent la parole de Dieu. C'est ciblé là-dessus. Et que Dieu ne supportera pas l'hypocrisie. Il ne supportera pas l'hypocrisie. Donc dans Ézéchiel chapitre 4, il parle au berger. Vous avez vu, Ézéchiel 34, verset 2, « Fils de l'homme prophétise contre les bergers d'Israël. » Verset 4, verset 3. « Vous avez mangé la graisse, vous êtes vêtu avec la laine. » Vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez pas fait paître les brebis. En ce moment-là, je pense à un article que j'ai lu dernièrement, où il y a un pasteur qui avait utilisé l'argent de l'église pour lui, pour se faire une salle de sport. Voilà, il avait acheté 3 bâtiments. Enfin, je sais qu'il y avait une salle de sport, il y avait 2 ou 3 trucs, je crois qu'il y avait un restaurant, autre chose. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Moi, quelle fierté nous avons, mais quelle fierté que tout l'argent ici est utilisé pour le salut des âmes. Et j'y tiens. Est-ce que c'est important pour vous que l'argent soit bien utilisé? Vous voyez? Et là, c'est... Mais je vous donne un exemple. Je vous le dis parce qu'il faut que vous compreniez que quand je lis quelque chose, ça correspond à quelque chose de précis dans ma tête et dans mon cœur. Que je lis, que je sais. Verset 4. « Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible. Guéri celle qui était malade. Pensé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient pas de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. Mon troupeau est errant sur toutes les montagnes, sur toutes les collines élevées. Mon troupeau est dispersé sur toute la face du pays. Nul n'en prend souci, nul ne le cherche. C'est pourquoi, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs, faute de bergers, parce que mes bergers ne se prenaient aucun souci de mes brebis, qui se paissaient eux-mêmes et ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, berger, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux aux bergers, je reprendrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne laisserai plus paître mes brebis, ils ne se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche. Elles ne seront plus pour eux-mêmes, pour eux, une proie. Car ainsi parle l'Éternel. Voici, j'aurai soin moi-même de mes brebis, et j'en ferai la revue. Comme un berger inspecte son troupeau quand il est au milieu de ses brebis éparses, ainsi je ferai la revue de mes brebis. Je les recueillerai de tous les lieux où elles ont été dispersées au jour des nuages et de l'obscurité. Je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai de diverses contrées. Je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leur demeure sera sur les montagnes élevées d'Israël. Là, elles reposeront dans un agréable asile. Elles auront de gras pâturages sur les montagnes d'Israël. C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel. Je chercherai celle qui était perdue. Je ramènerai celle qui était blessée. Je panserai celle qui était égarée. Je panserai celle qui était blessée. Je fortirai celle qui était malade. Amen. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Dieu voit ce qui se passe. Lorsque dans une église, on mélange le péché avec la parole, Dieu se retire. Il se retire et on vit dans l'illusion et beaucoup de gens s'illusionnent. Hier, je cherchais un verset dans les Proverbes qui m'est revenu à l'esprit. C'est quand il est dit « la... » Proverbe 1:29. On va le lire, s'il vous plaît. Proverbe 1:29, quand il est parlé de la stupidité, que ça nous tue la stupidité. Est-ce que vous le savez? Que la stupidité nous tue. Je ne veux pas le citer comme mal, alors on va le lire. Proverbe chapitre 1. On va lire à partir du verset 29, mais en vérité c'est le verset 32 qui nous intéresse. Et ça colle exactement à ce qui est en train de se passer. Les gens, ils gobent n'importe quoi pourvu que le pasteur soit fervent, qu'il dise Alléluia toutes les trois phrases, qu'il parle du Saint-Esprit toutes les trois minutes. Donc, s'il parle du Saint-Esprit, s'il est fervent, s'il crie, voilà, il est spirituel. Laisse-moi vous dire que ce n'est pas parce qu'un pasteur va crier ou parce qu'il va y avoir de l'ambiance dans l'église qu'elle est spirituelle. Proverbe chapitre 1, verset 29. Parce qu'ils ont haï la science, ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils, ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassasiront de leurs propres conseils. Car, regardez bien, la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés, la fausse sécurité bien sûr, la sécurité des insensés les perd. Mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde ravagé par le péché. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Les églises sont apostates. Et nous devons revenir à cette entière parole de Dieu. Les hypocrites feront partie de ceux qui seront dehors. Ce n'est pas moi qui le dis. Beaucoup chercheront à rentrer. Les hypocrites, ceux qui sont chrétiens à l'église et ceux qui sont autant que les pécheurs à l'extérieur. Et vous devez savoir, vous devez pouvoir dire en toute honnêteté, oui, je suis un hypocrite. Cette semaine, ça m'a fait plaisir. Il y a trois chrétiens qui sont venus, dont un rétrograde, et qui m'a dit, écoutez, monsieur, voilà, j'emploie les mots qu'ils ont utilisés, on en a marre d'être des hypocrites. J'ai dit, mais c'est bien. On en a marre, on est chrétien à l'église, on vient, on donne notre dîme, on chante, on dit alléluia à vos prédications, et on vit dans le péché. Il y en a un qui me dit, voilà, moi je viens, je suis grossier, je parle grossièrement, quand le patron me donne un ordre, ça m'énerve, et je rouspète, et je le fais à contre-cœur. Vous allez me dire, mais c'est pas grave. Je pense que, on a dit ce matin, dans les chants, que Dieu regarde au cœur. Quelqu'un qui est soumis à Dieu, qui aime Dieu, et bien il obéit à son patron. Oui ou non? Et l'hypocrisie, on devrait l'aborder. Prenez Matthieu 23, faites-le chez vous, et regardez les 7 reprises où Dieu parle. C'est vrai qu'il parle au pasteur, mais vous pouvez faire la connexion avec votre vie et dire, mais peut-être que je peux me retrouver dans ce cadre-là. Et ça me donne une fausse sécurité, et la Bible dit que ça nous tue. C'est pour ça que nous devons, sous le regard de Dieu, dire, mais moi je ne veux pas être un hypocrite, je veux être un chrétien honnête, je veux faire ce que Dieu me demande. Voilà l'hypocrisie, l'hypocrite, il va vous dire, mais non, je ne peux pas servir Dieu, je n'ai pas le temps. Ah, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps d'amener tes enfants à l'évangélisation, mais tu as le temps de les amener au tennis, au foot. Moi, j'ai vu plusieurs frères ici. Vous savez, ce que je vous dis, c'est sur 31 ans d'expérience. Combien de frères m'ont dit, monsieur Gros, je vais amener mon fils au foot. Je vais amener mon fils au rugby. Mais vous savez, le dimanche, on sera toujours à l'église. Hein? J'ai dit, écoutez, ça m'étonnerait. Oh, monsieur Gros, vous savez, moi, je suis déterminé. Tous les frères, écoutez bien, tous, depuis 31 ans, qui ont mis leur enfant au football, parce que c'est vicieux. L'entraînement, c'est le samedi, c'est le mercredi. Et puis, paf, quand ils sont sélectionnés, c'est le dimanche. Et tous ces frères-là, certains, pas tous, m'ont dit, monsieur, vous avez bien raison. J'ai perdu mes enfants. Et je crois qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. C'est vrai? Est-ce que c'est biblique ce que je vous dis? Il faut savoir. Je le disais l'autre jour, un enfant qui nous disait, mon papa, mes parents, m'ont jamais amené à une réunion d'évangélisation. Mais je peux vous dire qu'ils ne manqueront pas le judo. Et le judo, peut-être vous devriez vous renseigner, si dans l'endroit où on fait du judo, on ne fait pas du yoga. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a que du judo, mais je peux vous dire qu'il y a des endroits, c'est précédé de yoga. Et je crois que là, ça vaut quand même la peine de se poser la question si le yoga, ça ne nous amène pas à abandonner notre volonté pour que quelqu'un d'autre y vienne. Bien sûr que ça vous dépasse, parce que je ne vous ai jamais dit ces choses. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'était pas prêts. Mais une chose est certaine, mes frères et sœurs, la colère de Dieu va se révéler de plus en plus. Alors, j'en arrête avec la colère. Parce que mes frères et sœurs, même si le Seigneur est obligé d'être sévère, même si le Seigneur est en colère, dans une sainte colère, n'allez pas dire n'importe quoi demain aux gens avec qui vous travaillez. Dieu est à la porte, il frappe. Et hier, vraiment, j'ai demandé à Dieu de me rassasier. Parce que quand il dit, si quelqu'un entend ma voix, je frappe. Et si quelqu'un ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui, et lui avec moi. Le dernier cantique là que vous avez peut-être pas pu chanter, mais vous avez vu, il commence par la colère, où trouverai-je une retraite, c'était ça, hein? Et il termine avec cette grâce de prendre le pain que Dieu veut nous donner. Est-ce que vous savez que quand, c'est pas une figure de style, j'entrerai et je souperai avec lui, et lui avec moi, oh c'est de la poésie, c'est beau, le Seigneur fait de la poésie, c'est de la philosophie, l'Église, la Bible. Mes frères et sœurs, quand le Seigneur nous parle de nous rassasier, il va nous rassasier. On va prendre un exemple, un ou deux. Matthieu, Ésaïe 66. Jérôme vous rappelait tout à l'heure que dans la vie, on est quand même secoué. Oui ou non? Est-ce que la vie vous a secoué parfois? Des épreuves, des tempêtes, des contrariétés, des blessures? Dans la famille, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être blessé dans la famille? Bien sûr, c'est sûr qu'une famille qui habite en Australie, il n'y a pas beaucoup de chances qu'elle vous contrarie. Quelqu'un qui habite à côté de chez vous, c'est plus facile. Est-ce que vous avez déjà été blessé? Est-ce que vous avez déjà été en deuil? Le deuil, quand on y est, il faut le traverser, le deuil. Dans Ésaïe 66, regardez. Hier, je méditais, je me suis dit, tu vas méditer le psaume 119. Ce que je vous conseille à faire quand vous n'avez pas envie de lire la Bible. Dans Ésaïe 66, alors je vous conseille de lire les psaumes, de les méditer, et Ésaïe, et de voir toutes les fois où le Seigneur nous parle de nous rassasier. Vous aimez manger ? Est-ce que vous aimez manger ? Est-ce que vous aimez les bonnes choses ? Ce que vous allez faire, vous allez tous m'inviter à manger, après l'autre bien sûr, et je vous dirai. D'accord ? Est-ce que vous aimez manger de bonnes choses ? Allez, soyons. Est-ce que c'est bien de manger de bonnes choses ? Bien sûr, c'est une bénédiction. Combien c'est bien des fois d'être rassasié ? Bon, faites attention parce que sinon on s'étoffe un peu. Mais est-ce que c'est bien d'être rassasié ? Oui, ça dépend de quoi, bien. Mais oui, ça dépend de quoi. Mais vous avez quand même compris que mes propos sont d'une sainteté totale. D'être rassasié. Et imaginons que cette image, Jésus, Dieu, l'utilise pour faire la même chose au niveau de notre âme. Dans Ésaïe 66, il parlait du deuil. Verset 10, la fin du verset 10, regardez, vous qui l'aimez, vous qui menez deuil avec elle. Voyez le deuil, c'est une souffrance le deuil. Qu'est-ce qu'il dit ? Afin, verset 11, que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations. Vous pouvez dire merci Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit dans cette église que le Seigneur, dans une épreuve, dans une souffrance, est capable de vous donner spirituellement le lait de la consolation? Parce que vous savez, vous pouvez même mettre une bouteille sous les chutes du Niagara, si elle est fermée, elle va pas se remplir, oui ou non? Mais c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Il y a des gens, ils repartent, bien sûr, la prédication, ça rafraîchit les côtés de la bouteille. Mais l'intérieur est toujours vide. Mettez un seau sous les chutes du Niagara, ça m'étonnerait qu'ils mettent 3 mois à se remplir. Oui ou non? Pourquoi je ne suis pas rassasié? Pourquoi je ne vis pas, il restaure mon âme? Pourquoi je suis malheureux de ne pas être rassasié afin que, et c'est comme ça que je vais chercher la joie. Il me faut aller au cinéma pour regarder un film, ça va me faire du bien. Quelqu'un me disait hier, mais moi je préfère aller au sport qu'aller à l'église. Elle était sérieuse la personne. Mais parce que son cœur est fermé. Quand vous êtes fermé, si un petit rafraîchissement, comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas un chemin lorsqu'il nous parlait, vous savez, qu'il nous citait les Écritures. Alors, ils étaient là, Jésus marchait à côté d'eux, ils n'ont pas vu que c'était Jésus. Les gens ne réalisent pas que le Seigneur est au milieu de nous. Si votre cœur est froid, comme les disciples d'Emmaüs, voilà. Après, heureusement qu'ils ont dit, bon, allez, reste avec nous. Et là, ils ont partagé le pain avec lui. Au moment où ils partageaient le pain, ils l'ont reconnu. Et là, ils ont été rassasiés. Mes frères et sœurs, oui, nous avons d'un côté un Dieu qui va manifester sa colère. Que personne ne s'imagine un instant que les choses vont s'arranger. Les choses vont se dégrader. Et ce n'est rien, écoutez-moi bien, ce n'est rien à côté de ce qui va se passer quand dans l'Apocalypse chapitre 6, il est stipulé que la colère de Dieu est venue. Et qui pourra subsister ? Eh bien, subsisteront que les chrétiens qui auront été sous le sang du Seigneur. Et si vous n'êtes pas sous le sang du Seigneur, si vous êtes dans l'hypocrisie, parce que vous êtes à l'église le dimanche et que vous pensez que tout va bien parce que vous lisez, vous priez et vous allez à l'église, ça ne suffit pas. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et mes frères et sœurs, nous avons, je vous le répète, un Dieu qui est vraiment en colère. Et un Dieu qui est rempli de miséricorde pour tous ses enfants. Qui attend qu'une chose, c'est que nous ouvrions notre cœur et qui nous rassasie. Comment je vais pouvoir vivre l'Éternel et mon berger ? Je ne manquerai de rien. Il me dirige près des eaux paisibles. Il y a plein de gens qui sont capables de réciter le psaume 23 par cœur. Oui ou non ? Il me conduit près des eaux paisibles. Il me dirige dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Ah, comment ? Il restaure mon âme. Mais qui a besoin ? Répondez au Seigneur. Ne répondez pas à moi, c'est pas important. Mais dites-lui au Seigneur, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui a besoin d'être restauré, qui a besoin de prendre le pain des grands? C'est comme ça que Dieu en parle. Alors, les Hébreux, ils en parlaient comme d'une misérable nourriture de la manne, vous vous rappelez? Cette misérable, ouais, la Bible, moi je la lis pas, je comprends rien. La parole de Dieu, c'est la pain des grands. Vous le croyez? Mes frères et sœurs, il y a la bénédiction sur la terre. Et le diable, il va tout faire. Tout faire. pour nous empêcher d'être rassasiés du lait de ses consolations, que notre âme soit restaurée. Mais prenez les psaumes et surlignez, dites, qu'est-ce que c'est cette affaire d'être nourri? Si vous venez pour la première fois, vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, lisez les psaumes et regardez à chaque fois où Dieu dit qu'il va nous rassasier. On prend quelques versets, tiens, il y a le psaume 63 qui me vient à l'esprit. Psaume 63. Si vous avez besoin de consolation, eh bien, demandez au Seigneur la consolation. Ce n'est pas parce qu'il est en colère contre le monde qui le rejette qu'il est en colère contre l'Église. Il devrait être en bénédiction pour l'Église. Dieu doit être en bénédiction pour l'Église. Psaume 63, si je ne me trompe pas. Psaume 63, oui. Et pourtant, David, il est dans le désert. Il est dans le désert et il prie. Tiens, ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Est-ce que c'est bien de prier dans le désert? Est-ce qu'il a bien fait de prier dans le désert? Il y a des gens, quand ils sont dans le désert, j'en ai marre, je prie plus, je lis plus, je vais plus à l'église. Eh bien, David, dans le désert, il cherchait Dieu. Vous avez vu la différence? Après, ces gens-là, ils ont le toupet de se comparer à David. C'est mon Seigneur, je ressemble à David, si je veux te ressembler. Eh bien, si vous ressemblez à David, quand vous serez dans le désert, à la place de pleurer, vous chercherez Dieu. Et regardez le résultat. Verset 6. Mon âme, il connaît Dieu, David, c'est clair. Mon âme sera rassasiée. Comme de mes gras et succulents. Qui le croit vraiment? Qui croit vraiment? Alors on pourrait prendre des dizaines de textes. Mais qui croit que votre âme peut être rassasiée? Qui le croit dans ce lieu? Qui dit, mais je ne vais pas mélanger les choses. Je vais souper avec toi, Seigneur. Est-ce que vous croyez que Dieu il peut vous donner cette paix? Votre âme sera rassasiée, peut-être que vous êtes malheureux, votre âme est desséchée. Si on prend tous les textes où il est parlé de l'âme souffrante, de l'âme morte, de l'âme affligée, de l'âme qui pleure, de l'âme qui est triste, il y en a une cinquantaine peut-être, sans exagérer. Mais il y a aussi des textes qui nous montrent que quand on vit dans la grâce, que quand on vit dans l'obéissance, que quand on bannit de notre cœur l'hypocrisie, ça c'est une affaire sérieuse l'hypocrisie. Toute ma prédication a été articulée là-dessus, en vérité. Mais je pense que le Seigneur a voulu que je vous le conduise autrement. L'hypocrisie, ça va nous fermer la porte. L'hypocrisie, ça nous rend stupides. Parce qu'on joue un rôle, alors on est là, alléluia, puis à la maison, on est capable d'être minable avec son épouse, on est capable d'être minable avec les gars avec qui on bosse. Tout ça, il faut le régler. Et si vous n'arrivez pas à le régler, de toute façon, vous n'y arriverez pas. Il n'y a que Jésus qui peut vous rassasier. Moi, je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle. Je sais ce que c'est d'avoir été minable avec son épouse. Je le sais. N'imaginez pas des choses graves. Mais d'avoir manqué de tendresse, d'avoir manqué de sollicitude, d'aide, avec la grosse excuse que, tu comprends, je bosse pour l'église, je n'ai pas le temps. La grosse excuse. Mais ma femme, combien de fois j'ai dû lui demander pardon? Et je sais ce que c'est de recevoir de l'aide de la part de Dieu pour être en bénédiction à son épouse. Je dis ça parce que si c'est l'inverse, je vous le dirai. Je ne suis pas un hypocrite. Mais je sais ce que c'est de recevoir la grâce de Dieu. Vous savez, cet été, j'en ai parlé là au début. J'ai beaucoup pleuré cet été. Personne ne m'a vu, même pas ma femme. Mais Dieu m'a vu. Et j'ai dit, Seigneur, écoute, moi je veux bien servir, mais il te faut me parler. Et je vous assure, Dieu m'a parlé. Et s'il y a une chose que Dieu veut, c'est qu'on ne mélange pas la parole avec du péché. Ce que Dieu veut, c'est nous avertir qu'il va bientôt revenir. Il est en colère, mais il est plein de grâce. Et il est prêt à vous rassasier du lait de sa consolation. Moi, je défie quiconque, ce soir, de se vous trouver dans sa présence et de rester le temps qu'il faut, comme on est capable, d'un bon repas. Il y a des repas de mariage, ça dure combien de temps? Des repas de mariage. Ça peut durer des heures, un repas de mariage. Même à tel point que ça... C'est pas vrai? Un repas de mariage, ça ne peut pas durer 3-4 heures? Pourquoi? Parce que, bon, c'est comme ça, c'est la fête, etc. Mais il n'y a pas des repas qu'on pourrait prolonger avec notre Seigneur. Plutôt que d'avoir le toupet de lui dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi je suis desséché. C'est sûr, si je passe 3 heures devant la télé et que mon repas spirituel, ça correspond à une olive farcie, ça ne va pas faire grand-chose. Je sais qu'on peut se nourrir de peu, mais spirituellement, je pense qu'on peut prendre un petit peu plus, vous êtes d'accord avec moi? Et il y a des gens, ils font leur culte, ça dure 3 minutes, exactement, 2 olives, 3 olives, 3 olives, 3 olives. Mais laissez-moi vous dire que ça ne va pas vous rassasier. Après, on a le culot de dire au Seigneur, mais Seigneur, tu vois, je ne comprends pas, j'en ai marre, Seigneur, mais vous croyez que le Seigneur, il va vous dire, repens-toi. Oui, Dieu est en colère contre les nations. Dieu est en colère contre notre pays. Et je peux vous dire que si on vote le mariage religieux des homosexuels, croyez-moi, ça ne va pas s'arranger encore. Mais Dieu est plein de miséricorde pour ses enfants, parce que nous serons sauvés de sa colère. Nous les chrétiens, si nous ne vivons pas dans l'hypocrisie, si nous vivons dans la droiture, dans la sainteté, eh bien nous serons sauvés de la colère. Alléluia. Vous pouvez dire alléluia, mes frères et sœurs. Vous pouvez dire oui, Seigneur, je veux être rassasié du lait de tes consolations.